de la maladie.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Parlons maintenant d'une maladie inhabituelle qui fait des victimes dans la province de Kwango en RDC. Il s'agit du Kanzo.
En effet, plus de 200 personnes ont été atteintes en 2 mois de cette maladie dans une zone pauvre de la province de Kwango, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. La plupart des malades sont des personnes dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, selon Jean de Dieu Kitambo, administrateur du territoire de Kaimba dans la dite province. L'hôpital catholique qui reçoit des malades a lancé un SOS au gouvernement congolais et aux partenaires afin qu'une assistance massive soit accordée aux malades et à la prévention de cette maladie. Jusque-là, l'hôpital se limite à calmer les douleurs puisque ne disposons pas de médicaments pour soigner la maladie.
Le Kanzo, parlons-en. C'est quoi cette maladie, Firmin ?
Rosine, le Kanzo est une maladie qui attaque les membres inférieurs et la colonne vertébrale, provoquant une déformation physique déplorable et souvent irréversible. Selon le docteur Paulin Kiyakai, médecin à l'hôpital catholique Guy Omeri de Kaimba, cette maladie est provoquée par la consommation d'une variété de manioc très amère qui devait normalement rester trempée dans l'eau au moins pendant 4 jours pour éliminer le cyanure avant d'être consommé. Mais plusieurs personnes ne respectent pas ce délai. La maladie de Kanzo est signalée depuis 2009 dans ce territoire de la RDC.
Et pour terminer, parlons du choléra qui a tué 14 personnes au Nigeria.
Effectivement, la maladie a causé la mort de 14 personnes et entraîné l'hospitalisation de 400 autres à Maïdougouri, dans l'état de Borno, un état confronté à l'arrivée des déplacés fuyant le groupe djihadiste Boko Haram. La plupart de ces cas et des décès se sont produits dans le camp des déplacés. L'Organisation mondiale de la santé a recruté environ 200 volontaires pour rechercher maison par maison des cas suspects afin de s'assurer que la transmission soit interrompue le plus vite possible.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Le lundi 3 septembre dernier, c'était la rentrée scolaire dans plusieurs pays africains, dont la RDC. Mais dans ce pays, précisément dans la province du Nord Kivu, l'ombre de l'épidémie d'Ebola plane sur la dite rentrée, d'autant plus qu'un syndicat d'enseignants, le syndicat des enseignants du Congo, district urbain de Beni, a appelé à boycotter cette rentrée scolaire pour des raisons liées à la situation socio-professionnelle des enseignants, mais aussi à cause des risques de propagation de la maladie à virus Ebola. Notre correspondant dans le Nord Kivu, Erika Semouissi, a rencontré le secrétaire permanent de ce syndicat. Il nous parle des raisons du boycott et des préalables posés par le syndicat avant la reprise des classes.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez.
Palou Koubambiriki Régislin, secrétaire permanent Siekoville de Beni, chargé des actions syndicales.
Alors, vous avez indiqué souhaiter les reports de la rentrée scolaire pour cette année. Pourquoi ?
Nous avons souhaité et reporter la rentrée scolaire pour les raisons suivantes. D'abord, la maladie grave qui est dans notre région, le virus Ebola. Il y a les enseignants qui y restent non payés. Il y a aussi la modicité des salaires des enseignants. Enfin, il y a aussi les sécurités qui a provoqué le déplacement de nos enseignants.
Le ministre de la Santé a recommandé le maintien de la rentrée scolaire. Quel est votre sentiment et comment avez-vous réagi?
Par rapport à la recommandation du ministre de la Santé, nous, chez nous, nous avons jugé mieux reporter cette rentrée. Tous les éléments nécessaires n'étaient pas encore réunis pour que la rentrée soit effective. Et vous allez constater que les écoles n'étaient pas encore équipées, il n'y avait pas de lavabo, même jusqu'à présent, plusieurs écoles ne sont pas toujours équipées. Ce qui prouve que les dangers restent toujours permanents par rapport à la contamination des enseignants et des apprenants. Il y a aussi les difficultés d'ordre et logistique. Jusqu'à présent, il y a des doutes, il y a encore des certitudes par rapport à certains matériels, notamment les thermoflashes, par exemple, qui présentent 2 ou 3 résultats. Il faut aussi peut-être un personnel bien qualifié à la matière. Donc, nous avons jugé reporté. Les dangers restent là, quand bien même une minorité d'écoles a été survie, acquitte partielle d'ailleurs.
Selon vous, quels sont les préalables pour une rentrée scolaire dans cette partie de la province?
Et par rapport à la maladie, il faut la vaccination des enseignants qui présentent des risques réels, précisément et ceux des premières années primaires et ceux de la maternelle. Deuxièmement, il faut la sensibilisation des parents d'élèves par rapport à cette maladie de virus à Ebola. Troisièmement, il faut le déploiement de tous les kits dans toutes les écoles publiques comme privées, car tous les élèves sont congolais et ont les mêmes droits. Il faut aussi associer chaque fois les syndicalistes dans les décisions qui concerneraient le secteur de l'éducation.
Monsieur Paluku, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'était Paluku Ghislain, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo district urbain de Beni. Pour sa part, le ministère de la Santé indique qu'un report de la rentrée scolaire n'était pas nécessaire. Le docteur Baté Njoloko, coordonnateur de la riposte contre l'épidémie, nous explique pourquoi. Il est lui aussi au micro de notre correspondant Erikas Mouissi.
Docteur Baté Djoloko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de la coordination de la riposte dans la zone de Beni ici. Peut-on savoir pourquoi les ministères de la Santé a recommandé le maintien de la rentrée scolaire au 3 septembre, malgré les risques de propagation d'Ebola?
Nous l'avons dit encore devant la presse hier, l'effet d'enseigner n'expose nullement l'enseignant à contracter le virus Ebola. Non. Par contre, c'est les lieux qui protègent, puisque nous avons démontré avec les parents que les enfants se laveraient mieux à l'école qu'à la maison, les mains. Et que les enfants seraient mieux informés sur Ebola à l'école qu'à la maison. Et c'est comme ça que nous avons convergé avec les membres des syndicats avec lesquels on a causé hier. Et aujourd'hui, nous confirmons que la rentrée scolaire, effectivement, elle est effective dans la ville et nous ne craignons aucune contamination dans les milieux scolaires.
Et quelles sont également les actions prévues par les ministères de la Santé pour éviter ou réduire les risques de la propagation de la maladie dans les écoles?
C'est essentiellement les mesures d'hygiène qui devraient en principe être mises en place dans une école qui respecte les normes. C'est dire les enfants d'avoir la possibilité de se laver les mains avec le savon. Ça signifie que pendant ces temps, les enfants doivent réduire sensiblement les jeux qui les conduisent à s'attoucher de façon beaucoup plus intensive. Et tous les attroupements au niveau des écoles et que les enfants continuent à étudier normalement.
Quel message pouvez-vous passer aux parents, aux élèves, aux responsables d'établissements qui ont toujours cette crainte d'envoyer les enfants à l'école?
Bon, c'est une crainte qui n'est pas fondée, tel que nous venons de le dire. Sur quelle base? Puisque si c'était ça, alors même les enfants n'avaient pas joué pendant les vacances. Et en plus de ça, à l'Équateur où nous étions, pour la dernière épidémie, on n'avait jamais fermé les écoles. Ça voudrait dire que tous les partenaires que nous avons, l'Organisation mondiale de la santé, pratiquement l'UNICEF, sont avec nous dans cette riposte et pour la sécurisation des enfants en milieu scolaire.
Docteur Baté Djoloko, merci.
Merci à vous.
C'était le docteur Baté Djoloko, coordonnateur de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Sur le terrain, les cours ont repris malgré l'appel au report de la rentrée par le syndicat des enseignants du Congo district urbain de Beni. À l'Institut Mapendo, un établissement secondaire de la ville de Beni, la reprise est timide mais effective. Boulere Sadi est le préfet des études de cet institut. Au micro de notre correspondant, il parle de l'ambiance pendant la première semaine de la rentrée scolaire et des dispositions prises pour réduire les risques de propagation de l'épidémie dans son établissement.
Monsieur, bonjour. Quel est l'état de la situation depuis les débuts de la rentrée scolaire dans votre établissement?
Nous avons certainement ouvert nos portes depuis le 20, d'abord pour nous, les personnels administratifs. Et il était établi que la rentrée scolaire soit effective à partir du 3 septembre 2018. Et nous y sommes déjà, nous sommes présents en tant que chef d'établissement. Mais aussi, nous avons trouvé la présence des enseignants à la rentrée scolaire. Sauf que ce qui nous a un peu inquiété, c'est l'absence vraiment totale des élèves, des apprenants.
Alors, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le Nord Kivu ici vous préoccupe-t-il? Si oui, pourquoi?
C'est vraiment une préoccupation, comme tout habitat de la région. Vous savez que la santé, c'est la première des choses, c'est la denrée rare qu'on puisse avoir. Mais sauf que ça préoccupe encore de plus en plus lorsque ça impacte négativement sur la rentrée scolaire. Et en tant que chef d'établissement, je suis en train de comprendre aussi que même les absences des élèves que nous sommes en train de constater, et cela est dit aux différentes rumeurs qui circulent par-ci par-là suite à cette maladie, cette épidémie qui sévise dans notre milieu.
Certains syndicats ont recommandé les reports de la rentrée scolaire pour protéger éventuellement les enfants et enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Personnellement, je pense que, bon, d'abord, ils ont le droit de réclamer cela, c'est de leur droit, mais je pense que ce n'est pas encore une solution définitive, idoine, tellement que on ne sait pas quand est-ce que cette épidémie va prendre fin. Et donc, si on peut dire qu'on va reporter à cause de l'épidémie d'Ebola, cela peut directement aussi amener à aller vers une année blanche dans cette région. C'est que je pense qu'il n'est pas encore une solution, surtout que aussi les enfants ont droit à l'éducation.
Qu'est-ce que vous avez déjà pris en termes de mesures pour pouvoir éviter la propagation de cette maladie dans votre établissement?
D'abord, je vais commencer par notre recommandation. Nous recommandons aux autorités tant étatiques que les partenaires de l'éducation de pouvoir renforcer les mesures de riposte vis-à-vis de cette maladie pour qu'elle soit endiguée une fois pour toutes. Et en revenant à votre question, au sein de notre école, nous avons d'abord renforcé la sensibilisation auprès des enseignants pour que ceux-ci aussi puissent être des sensibilisateurs lorsqu'ils vont recevoir les élèves dans les salles de classe, aux règles élémentaires d'hygiène. Et aussi, nous avons reçu des partenaires, notamment il y a CAEA International, qui nous ont apporté des outils de riposte, notamment quelques lavabos, des barres de savon pour essayer de renforcer ce mécanisme de riposte ou bien de prévention contre la maladie à virus Ebola. Mais nous pensons que ce n'est pas encore suffisant, nous en avons encore beaucoup plus besoin pour que nous puissions une fois pour toutes arriver à prévenir surtout nos élèves de cette maladie.
C'était Boulere Sadi, préfet des études de l'Institut Mapendo de Beni. Voyons à présent ce que pense la population. Notre correspondant a demandé à une élève si elle avait peur de reprendre les classes et quelles précautions elle va prendre pour éviter d'être contaminée.
Moi, c'est Sarah Moulé. Je suis élève à l'Institut Mapendo. Je fais la 6e commerciale de gestion.
Alors, Sarah Moulé, quel est votre sentiment au moment où débute la rentrée scolaire, alors qu'on parle beaucoup plus Ebola? Avez-vous peur d'aller à l'école?
Bon, je dirais pas totalement, mais oui, quand même, j'ai peur. Parce que c'est une maladie qui peut être vraiment trop grave, ça tue trop mal. Mais moi, je suis contente de faire la rentrée scolaire parce que je suis maintenant 6e et j'aimerais avoir mon bac cette année. Alors, je ne veux pas de retard parce que j'ai un objectif quand même.
Alors, parlez-vous de la maladie avec vos amis, camarades et dans vos familles? Que dites-vous sur cette maladie?
Bon, souvent, à la maison, oui. Aussi à l'école, oui. À la maison, on parle trop parce que ma mère est très informée. Maintenant, ce que moi, je connais, j'amène ici à l'école, je change avec mes amis pour qu'on sache que c'est une maladie au moins vraiment un peu grave et qu'on doit lutter contre ça.
Et comment se passent vos échanges, par exemple, à l'école autour de cette même maladie? Comment les gens interprètent cela?
Bon, souvent, les gens disent que c'est de la sorcellerie et d'autres comprennent que c'est une maladie scientifique ou quoi. Mais quand même, on s'échange des idées, des trucs, un peu de se protéger contre l'Ebola question.
Alors, comment vous vous comportez pour éviter d'être contaminé par Ebola, enfin?
Bon, moi, personnellement, je me lave les mains régulièrement et j'évite un peu des contacts intimes avec mes amis, de personnes, de connaissances.
C'était Sarah Mouholé, élève à l'Institut Mapendo de Beni. Écoutons enfin un parent d'élève. Justin Amissi fait partie des parents qui ont accueilli positivement le message du ministère de la Santé. Il encourage d'autres parents à envoyer leurs enfants à l'école. Voici son témoignage, recueilli par notre correspondant Ericas Mouissi.
Oui, messieurs, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs.
Avez-vous demandé à vos enfants de se rendre à l'école malgré la présence d'Ebola dans le Nord Kivu? Si oui, pourquoi?
Oui, bien sûr. J'ai demandé à mes enfants d'aller à l'école malgré qu'il y a présence de la maladie à virus d'Ebola. Tout d'abord parce que l'éducation, ça vaut mieux dans la vie des enfants. Malgré qu'il y a la présence de la maladie Ebola, Il faudrait que ces gens-là, que ces enfants-là partent à l'école. Et d'ailleurs, en allant à l'école, là, on va leur apprendre encore plus en ce qui concerne cette maladie-là. Raison pour laquelle je me suis dit non, il faut que ces enfants partent à l'école, qu'ils apprennent de ce qui est de la maladie, de la prévention d'ailleurs même de cette maladie. Là, ça sera pour leur intérêt. Il faut savoir d'abord comme quoi c'est pas nous qui nous protégeons seuls. Il faut savoir qu'il y a Dieu qui est là, qui nous protège. Et lorsqu'ils vont aller à l'école, ils seront aussi protégés parce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont déjà mis à place au niveau des écoles pour la protection de ces enfants-là. Là, on doit leur apprendre comment se protéger, comment se laver les mains, donc la propreté, l'hygiène et qu'on sort tel que nous le faisons à la maison. Et je suis sûr et certain, là, c'est très, très, très normal.
Avez-vous parlé de la maladie avec vos enfants? Selon vous, quel rôle peuvent jouer les parents pour éviter les cas des contaminations dans des écoles?
Vu que c'est l'information qui est à vogue, qui est à la une au niveau de la ville de Beni, au niveau du territoire et ville de Beni, nous sommes censés, nous parents, d'informer à nos enfants qu'il y a la présence de cette terrible maladie d'Ebola qui bat record, qui ravage au niveau de notre ville et territoire. Bien sûr, j'ai parler à mes enfants, je les réduis, je les conseille à ce qui concerne cette maladie-là. Leur disant, attention mes enfants, il y a la maladie qui est en train de ravager, qui est en train de battre record, et il y a les gens qui en meurent. Alors, à la maison, je prends le temps de leur montrer combien de fois cette maladie-là peut même déraciner toute notre famille. Et sur ce, il y a toujours des mécanismes, il y a des installations hygiéniques que nous avons placées au niveau de la maison pour essayer de diminuer, tant soit peu, pour essayer d'esquiver, tant soit peu, cette maladie-là qu'elle ne puisse pas atteindre mes enfants. Et c'est réellement ce qui s'est fait même aux écoles. Nous avons pris l'audace, le courage d'aller même à l'école vérifier est-ce que réellement, si nous avons les enfants à l'école, comme nous sommes en train de les protéger à la maison, est-ce qu'ils seront aussi protégés de la même façon à l'école? Et certainement, nous avons vu des installations hygiéniques. Il y a des installations, des mécanismes qui sont déjà pris au niveau de l'école pour essayer de protéger les enfants. D'ailleurs, hier, ils ont été à l'école et en revenant de l'école, ils sont venus m'apprendre d'autres choses que moi, je n'avais pas appris. Et donc, c'est pour dire qu'à l'école, on les a encore sensibilisés davantage. Voilà un peu à ce qui concerne la maladie. Ces enfants-là sont bien informés. Nous, parents, nous avons pris les soins de les informer. Arrivés à l'école, on les informe aussi. Donc, nous pouvons bel et bien dire qu'ils sont au courant de cette maladie.
C'était Justin Amissi, un parent d'élève vivant à Beni, dans le Nord Kivu.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps?
Quelle alimentation à adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mézéro
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Nguenkap, a une fois encore répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge peut-on s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère?
Ben, il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de notamment de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit, très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit. Et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%. Et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler un tout petit peu sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une pathologie, d'un acte concret, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui est survenu dans la famille qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie. Médicament qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause.
Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web voafrique.com.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la rentrée scolaire dans le Nord Kivu, frappée par une épidémie d'Ebola depuis plusieurs semaines. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Paluku Ghislain, secrétaire permanent d'un syndicat d'enseignants. Un syndicat qui militait pour le report de la rentrée scolaire. Il nous a parlé des préalables posés par son syndicat pour une reprise normale des activités scolaires dans la région. Nous avons aussi écouté le docteur Baté Njoloko, coordonnateur de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il nous a expliqué pourquoi le ministère de la Santé a recommandé la reprise des cours malgré le contexte épidémique. Enfin, nous avons recueilli les impressions et les témoignages d'un responsable d'établissement, d'un parent et d'un élève. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission.
Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béroma Tanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Karl Starin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.